pour qu'il nous donne des forces et qu'il nous explique des choses qu'on ne sait pas forcément, Hashem, pour qu'il nous donne une adracha sur un point qu'il connaît très bien. Voilà, Hashem.
Bon, bonjour à tous. Je suis venu il y a quelques mois vous parler de ma vie professionnelle mélangée à ma vie de Torah. J'habite Nevrak depuis presque 10 ans maintenant. J'étudie la majorité de mon temps, Baruch Hashem. Et à côté, je suis un investisseur. J'ai été investisseur dans plusieurs startups, dans des centaines de startups dans le monde. J'étais associé de Xavier Niel. Enfin, je suis toujours associé de Xavier Niel. Nous travaillons plus ensemble dans des centaines d'entreprises. Et je conseille aujourd'hui des grands groupes, des grands investisseurs, etc. dans le monde de l'Internet. Donc moi, en fait, pour entrer directement dans le sujet, moi, je suis ce qu'on appelle un des plus grands experts au monde du monde de l'Internet. D'accord ? J'ai découvert Internet quand j'avais 16 ans. C'était en 1994, bien avant tout le monde. À l'époque, on payait 80 francs l'heure de connexion. Je ne sais pas si vous imaginez, ça faisait 12 euros l'heure de connexion. Et donc, on se connectait très peu. On se connectait quelques heures par jour. Quelques heures par mois. 4 heures par mois, quelque chose comme ça. On se connectait, on relevait ses messages et on se déconnectait. On avait en fait à l'époque, l'Internet était très peu graphique. On avait des discussions, donc on faisait des discussions, des débats sur plein de sujets. Ça pourrait être sur l'informatique, sur la politique, sur n'importe quoi ou sur le judaïsme. Et donc on se connectait très très peu, d'accord ? Moi c'était ce concept d'Internet-là, le fait d'être connecté au monde, était pour moi une super occasion d'être effectivement depuis ma chambre tout seul, d'être en contact avec plein de gens. Moi, j'étais déjà ce qu'on appelle un geek, c'est-à-dire quelqu'un qui passait beaucoup de temps sur son ordinateur, trop de temps d'ailleurs. Et voilà, j'avais des choses à dire, des gens, des discussions à avoir sur certains sujets. Et j'avais trouvé effectivement sur Internet des interlocuteurs très intéressants à l'époque, puisqu'au général, les gens qui se connectaient à Internet à l'époque, c'était des hommes d'affaires, c'était pas des hommes d'affaires qui provenaient du monde informatique, c'était des scientifiques, etc. Donc il n'y avait pas le grand public, comme on explique. Le grand public est arrivé dans les années 2000 à peu près. Et donc à ce moment-là, on avait des discussions très intéressantes. Internet, c'était vraiment intéressant. Et très vite est arrivé le web, donc le web qu'on connaît aujourd'hui, les sites internet. Et là, effectivement, très vite, on s'est rendu compte que en tant que fou, on s'est rendu compte qu'il y avait certains sites qui posaient problème. Au début, on s'est dit c'est pas grave, on va pas aller dessus. Et au final, on se rend compte que tout est mélangé, les publicités vont de l'un à l'autre, etc. Et là, effectivement, donc, il y avait pas mal de problèmes. Mais au final, Internet, ça a amené plein de bienfaits dans ma vie personnelle, ce qui a fait que je peux travailler de Nevrak et travailler avec le monde entier quasiment sans voyager. Au prochain, là, je suis en France uniquement pour donner des shiurim sur plein de sujets à des étudiants, des élèves de terminale, etc. Mais voilà, en fait, j'ai presque peu besoin de voyager grâce au mail et grâce à la vidéoconférence que j'utilise régulièrement. La vraie question qu'on doit se poser en fait sur Internet, beaucoup de gens, et pour une bonne raison, se sont dans le monde haredi et dans le monde juif, se sont attaqués immédiatement à Internet par rapport au contenu disponible sur Internet. D'accord ? Par rapport au mauvais contenu qu'on peut trouver sur Internet. Et effectivement, donc on doit tous avoir un filtre, comme si on doit être sur Internet, on va arriver à ça, mais en tout cas, si on est sur Internet, on doit avoir un filtre. Si on doit avoir un smartphone, ce que je ne pense pas, mais on va voir, il faut avoir des filtres, etc. pour éviter effectivement de tomber sur des contenus problématiques. Ça, c'est un sujet. Et c'est le sujet sur lequel la plupart des campagnes, même dans le monde Haredi à Bnei Brak, se sont concentrées. Ah, attention Internet, le problème, c'est le contenu. Le problème, c'est on peut tomber sur des mauvais films, on peut tomber sur des choses, etc. Et moi, en fait, je pense qu'on a complètement loupé le véritable problème d'Internet. Et le véritable problème, en fait, est apparu dès que les smartphones sont arrivés. Le véritable problème d'Internet est arrivé à partir du moment où on a pu avoir une connexion permanente, accessible absolument tout le temps, et un contact avec les gens absolument permanent. Faut réfléchir à quelque chose. C'est que si on est tous en train d'étudier des Gemarot, on est tous en train d'étudier des Rishonim, des Geonim, des Acharonim, Et on se rend compte que finalement, la sagesse des gens que l'on étudie sont des gens qui n'ont pas eu accès à Internet, qui n'ont pas eu accès à des énormes mines d'informations. Même aujourd'hui, on a notre clé USB avec Responsa, je ne sais pas si vous utilisez ici. Bah, et là, on a toutes nos bases de données, etc. Le Rambam n'avait pas ça. Enfin, il avait peut-être dans sa tête, en tout cas, une partie. Mais l'ensemble des sages que l'on étudie avaient très très peu de contenu, n'avaient pas accès à des énormes bibliothèques. Et au final, il y a une histoire, je ne me rappelle plus des noms de cette histoire, c'est dommage, j'aimerais, si peut-être que certains d'entre vous la connaissent. On racontait qu'un jour, un rave a été visiter un autre rave dans un pays, ça peut être la Pologne, quelque chose comme ça. Il est arrivé, il a vu une énorme bibliothèque, quelque chose comme ça. Dans le salon de ce, à l'endroit de ce où le rave vivait. Et ce rave était un gadol, était absolument un grand Talmid Chacham, etc. Et en sortant de rendez-vous avec ce rave, de cette chat, et après avoir passé un énorme moment, il lui fait: vous savez, en fait, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas que vous soyez un Talmid Chacham, c'est qu'avec tous les livres que vous avez là, vous puissiez être un Talmid Chacham. C'est-à-dire le fait d'avoir accès à trop d'informations en permanence, pour lui, en fait, pour l'homme qui était venu le voir, posait problème. C'est qu'en fait, quand on a trop d'informations, finalement, on n'arrive pas à se concentrer sur un contenu particulier. Et moi, pour moi, ça m'a beaucoup marqué cette histoire parce que j'y crois énormément. Moi, je suis quelqu'un, on m'a dit, à Bnei Brak, quand on arrive à Bnei Brak, la première chose qu'on fait, c'est on alimente sa bibliothèque. Alors moi, j'ai énormément de livres et pour moi, c'est un énorme problème. Un énorme problème parce qu'il y a tellement de livres, je ne sais pas, ça doit vous arriver. On arrive, j'ai dit, bon, maintenant, j'étudie quoi? Je sors ma Gemara, je sors un peu de Mishnah Brura, je sors du Acharonim, je sors des... Et à la fin, au final, finalement, on n'est pas concentré, on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. Et effectivement, on bascule d'un livre à un autre. En tout cas, moi, c'est mon problème et je me rends compte que c'est un problème chez beaucoup de monde. Donc, ce que je fais pour étudier, je suis obligé d'aller au Beit HaMidrash avec un livre. Et à ce moment-là, effectivement, je pars étudier. Etc. Alors, au Beit HaMidrash, il y a effectivement accès à des choses comme ça, mais pas la même chose. On a là le livre sur lequel on est en train de travailler, on est focusé là-dessus, on se concentre là-dessus. Le fait d'avoir accès donc à énormément d'informations en permanence, avoir accès à une mer d'informations, fait qu'au final, on ne sait plus rien. Et si on se rend compte aujourd'hui, la jeunesse mondiale est bien plus inculte aujourd'hui et peut beaucoup moins discuter de sujets intéressants. Si on veut leur parler des Grecs, des Romains, on veut leur parler de n'importe quel sujet historique, on veut leur parler de la Première Guerre mondiale, etc. Ils vont nous ressortir un peu ce qu'ils se rappellent, ce qu'ils ont appris à l'école. Mais aucun d'entre eux va arriver en disant: oui, sur Internet, j'ai vu quelque chose de super intéressant, je me suis bien renseigné sur le sujet. Voilà, maintenant je suis un expert, je te ferai une chaboura sur les dieux grecs et des choses comme ça. Non, 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 non. Un jour, je me suis retrouvé à dîner avec plusieurs patrons d'une société d'assurance, une grosse société d'assurance française. Et il n'y avait pas le PDG, il y avait tout ce qu'on appelle le conseil d'administration qui était là et les dirigeants de l'entreprise. Et à un moment, ces gens-là me disent: vous savez, notre problème, c'est que notre PDG n'est pas connecté à Internet. Il est connecté sur son ordinateur, sur son bureau, il n'y a pas d'ordinateur, il n'a pas de smartphone, mais par contre, on a les meilleurs résultats des dernières années. C'est quelqu'un de super intéressant, d'ailleurs, il va vous plaire. Monsieur Béhavi, il va vous plaire, vous allez pouvoir discuter de plein de choses, etc. Mais quand même, il n'a pas Internet. Et enfin, il n'a pas Internet, il a un accès effectivement de temps en temps, mais en tout cas, il n'est pas tout le temps. Et moi, je leur ai dit comme ça, je leur ai répondu, je leur ai dit: et si finalement, le fait que vous ayez des résultats exceptionnels, et le fait que vous pensez que votre PDG est exceptionnel quand même, ce n'est pas justement parce qu'il n'a pas Internet. Alors pensez bien, les gens ne pensaient pas du tout que ça allait venir de moi. Ils pensaient qu'ils allaient m'avoir dans leur truc, que c'était les responsables justement du numérique, etc., qui est très frustré par ça. Je leur ai dit: si finalement, le fait que votre PDG arrive à se concentrer sur des sujets, le fait qu'effectivement, il arrive à être spécialiste de plein de sujets, c'est justement parce qu'il n'a pas Internet. Parce qu'il n'a pas accès en permanence à de l'information régulière et des flots et flots et flots d'informations. C'est peut-être pour ça que finalement, c'est quelqu'un de cultivé. Et ils se regardent tous comme ça, ils me disent: vous avez certainement raison. Comme ça. Il m'a dit: vous avez certainement raison. Mais ils étaient vraiment choqués de ce truc-là. À la fin du dîner, ils m'ont dit: c'était l'un des dîners les plus impressionnants que nous avons eu de notre vie. Ça s'est fini comme ça. Donc le sujet, en fait, D'internet, on va le prendre. En fait, il y a deux sujets. Il y a deux types de contenus qui existent sur Internet. Il y a des contenus que l'on appelle asynchrones, c'est-à-dire ce sont des contenus, ce sont des bases de données. D'accord ? Ce sont des contenus qu'on peut aller télécharger à n'importe quel moment. Donc, on va aller sur Call Alachon, télécharger les shiurims de Rav Dreyfus qui donne à Bnevrak ou de Rav Zilberstein ou de Rav Silman. Ça, c'est des bases de données. D'accord ? Aucun problème d'avoir accès à des bases de données. Ça peut avoir un problème si effectivement on passe son temps dessus à aller chercher des choses et à trop vouloir être transversal et ne pas se concentrer sur un sujet. Mais en tout cas, ces contenus-là ne posent pas de problème. Vous avez sur Internet des contenus de formation, des choses comme ça qui ne posent pas spécialement de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet, ce n'est pas ça. Les gens n'utilisent pas Internet pour ça. Les gens utilisent WhatsApp en permanence, les réseaux sociaux, le mail et finalement veulent rester en permanence connecté. Et se disent, si moi maintenant, je ne suis pas connecté, je suis en train de rater quelque chose qui se passe dans le monde. Et au final, on a un grand yetzer, le monde a un yetzer, c'est de penser qu'on est en permanence dans l'urgence. En permanence dans l'urgence. Nous, on est les juifs, on est en train d'étudier des textes qui ont 2000 ans. On n'est pas en train d'étudier le Figaro tous les jours. Où le monde, où les dernières actualités a essayé, on dit que certains rabbanim étudient un peu en pile-poule les Hadashot pour voir la main d'Hachem dedans. Effectivement, on peut pouvoir le faire quelques secondes par jour. Mais au final, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'étudier un contenu qui sera encore là dans 1000 ans, dans 5000 ans, enfin, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, qui sera là tout le temps, c'est le même, et qui n'a pas bougé, qui est en train d'évoluer, qui est en train de progresser, etc. Internet, en fait, finalement, on se concentre sur quoi ? Sur l'éphémère. Sur ce qui arrive maintenant. Il y a eu un événement qui peut avoir eu lieu ce matin, on va aller courir pour aller lire les informations. Il y a les élections présidentielles, on va aller lire tout ce qui se passe sur tous les candidats et sur tous les trucs, etc. C'est-à-dire, on ressort de ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on est plus chacham, plus cultivé ? Est-ce qu'on a avancé dans quelque chose ? Rien. Rien. Ah, on connaît un peu, on pense connaître, parce qu'on a lu le Figaro et le Monde, etc. On pense connaître un homme politique. On pense connaître quelque chose, on pense pouvoir bien analyser le monde, mais rien du tout. La presse en plus, on parle même pas de la fausseté de tout ce monde-là. Mais en fait, on est là en permanence à vouloir être au courant de tout et à se dire il peut y avoir une urgence. Pour un juif qui a de la Emouna et du Bitachon, ce concept-là de dire il va y avoir une urgence et si je ne suis pas au courant, il y a un problème, pour moi c'est un énorme défaut. C'est un énorme défaut d'Emouna et du Bitachon. Savoir qu'avant, quand une mère de famille laissait son enfant envoyer son fils au Heider le matin, elle ne pouvait pas appeler l'école toutes les heures en disant « Est-ce qu'il est bien arrivé ?» Déjà, il y avait des fois une heure de marche, une demi-heure de marche, ils étaient loin, ils passaient par des routes pas super, etc. Pareil, le père qui partait pendant 2-3 mois au Beth Amidrash, il envoyait un courrier qui arrivait après quelques semaines, etc. Il n'y avait pas un message toutes les 5 minutes, il n'y avait pas d'urgence, etc. Et là, finalement, la maman qui était à la maison, elle était en kécher avec Hachem du matin au soir. Avec qui elle pouvait être ? Elle était en kécher avec Hachem. J'espère que mon fils est en train de bien étudier. J'espère que mon mari est en train de bien étudier. J'espère que mes filles sont en train de faire des bonnes choses. Bon, en général, elles étaient à la maison il y a 200 ans, mais après, au Beth Yaakov, etc. Et donc, au final, on se retrouvait dans un moment où on est seul. Et quand on est seul, on parle avec Hachem. Quand on n'est pas seul, et c'est notre cas aujourd'hui, c'est le cas quand on a un smartphone, en tout cas, dans la poche. Quand on a le moins de problèmes, on a la moindre question, la moindre interrogation, immédiatement, paf, on pose la question, on envoie un message. Ça va, t'es bien arrivé, etc. Si c'est votre mère qui vous envoie et sur WhatsApp, vous ne lui avez pas répondu après 30 secondes, elle est déjà inquiète, elle relance. « Ah, j'ai vu que tu avais lu mon message, pourquoi tu ne me réponds pas ?» etc. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Si c'est votre femme, encore plus, etc. Enfin, encore plus, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, il y a un modèle ici où « Quoi, tu ne m'as pas répondu ?» Moi, j'ai des gens qui me disent « Je t'ai envoyé un message il y a 2 jours. »« Ah, il y a un problème, tu ne m'as pas répondu. » Je dis « Ouais, je ne l'ai pas encore lu. » »« Quoi, tu n'as pas lu mon message ?» Non, moi j'ai peut-être des dizaines de messages, je les lirai quand je les lirai. Pourquoi c'est urgent, il y a une grande urgence, j'ai pas vu qu'il y avait écrit urgent dans un titre, j'ai pas lu. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi je suis passé par cette phase de folie, d'être en permanence devant mes messages, et de répondre, et de faire vite, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que chaque année, en la Moed, je me déconnectais complètement. Et je me déconnecte toujours complètement. Complètement. C'est-à-dire, la seule chose, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont mon numéro de téléphone et ils doivent m'appeler uniquement en cas d'urgence. C'est arrivé une seule fois. On m'a appelé un jour de Soukhot, c'était effectivement une urgence. Et d'avoir Aved, donc c'était un vrai sujet. Mais à ce moment-là, on se dit, ben non, il y a on peut être stressé, etc. La première fois que j'ai fait ça, j'étais stressé. Et donc, ce qui s'est passé, et ce qui est arrivé, je dis, bon, ben, on va voir après Chol HaMoed. Moi, j'avais parlé avec Rav Rubin, celui qui donne les Hersherim, entre autres, en Israël, qui m'a fait genre une bracha en me disant, si tu travailles pas Chol HaMoed, c'était il y a 12-13 ans, tu auras que de la bracha. Et j'avais une chéla sur un point là-dessus. Et j'arrive après Chol HaMoed, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de gens qui vont mal, la société est là, on peut reprendre le travail, rien. Alors que normalement, avant, 3 jours avant, j'étais encore en train de répondre vite, il faut pas ça, attention, il va se passer ça, on va rater une affaire, on va passer. Là, il ne s'est rien passé. Le monde ne s'est pas arrêté. Alors on le vivait déjà, nous, on le vit avec Shabbat, on a la chance Shabbat. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps, qui est passé dans Kuntras d'ailleurs, dans l'avant-dernier Kuntras, où j'ai expliqué à quel point le Shabbat était la solution la plus moderne à tous les problèmes du monde. La solution la plus moderne. Il y a 100 ans, 200 ans, les réformés sont arrivés en disant « Nous allons, Shabbat ne correspond pas aux valeurs du monde moderne et aux valeurs, au mode de vie du monde moderne. » On arrive là aujourd'hui, on dit « Les goyim rêvent d'avoir un Shabbat. Ils rêvent de pouvoir le faire. » Il me dit « T'as la chance d'avoir Shabbat, de pouvoir te déconnecter. Moi, je n'arrive pas. » Parce que j'ai pas une pression de rien du tout. Donc, effectivement, de temps en temps, j'éteins mon téléphone, mais je replonge dessus. Non, on a Shabbat, on arrive. Et on voit qu'effectivement, on a laissé son téléphone de côté le vendredi, ou ses messages de côté vendredi, on arrive le samedi soir. L'okaraklum. Chol HaMoed, 8 jours. L'okaraklum. Il s'est rien passé. Tout va bien. Le monde ne s'est pas effondré. Et donc, à ce moment-là, il faut étendre. Il faut étendre les choses. Bah tiens, on va essayer 2 semaines. Peut-être qu'on n'a pas besoin finalement d'avoir autant d'interactions. Alors dans certains métiers, si on est médecin urgentiste, évidemment on a besoin d'être alerté en permanence, d'être constamment joignable. Moi personnellement, j'ai essayé de faire la liste des gens qui ont besoin d'être en permanence joignable. Alors certains rabbanim, alors maintenant les rabbanim, ils ont leur heure de leur plage téléphone. La plupart des rabbanim à Bnei Brak, enfin beaucoup d'entre eux n'ont même plus de téléphone portable. Ils ont un numéro fixe sur lequel on peut les appeler entre telle heure et telle heure. C'est tout. Il n'y a même pas de sujet. Donc voilà, il y a les médecins, il y a peut-être les traders boursiers qui ont besoin en permanence de jouer à la bourse, etc. Bon, finalement, il y a peu de métiers sur lesquels on doit avoir ce degré d'urgence. Alors pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps dessus? Pourquoi est-ce qu'on est en permanence en train de lever? J'étais là, moi en fait, je regarde en permanence. J'étais dans le Beit HaMidrash hier. Enfin, en faisant la tefila même ici, et j'ai vu effectivement plusieurs personnes qui, en plein milieu de la tefila, étaient en train de relever la chazara, tout, qui a un message, il y a un truc, et on répond, on va vite, etc. Non, je vais pas dire, j'étais dans le décalsrout en disant, il y avait une vraie urgence. Ils doivent gérer leur enfant, il y a leur femme qui va être, etc. Mais bon, quand on en voit 6-7, on me dit, non, c'est pas possible qu'il y ait cette urgence en même temps, c'est pas possible. Ou alors, il y a un problème d'organisation quelque part. Et ça, en fait, dans la rue, etc., aujourd'hui, on se rend compte, les statistiques montrent, que les gens qui ont un smartphone l'allument entre 120 et 200 fois par jour. Vous vous rendez compte, 120 et 200 fois par jour. Les non-juifs sont en train de se rendre compte aussi que c'est un problème. Il y a des livres qui sont en train de sortir sur l'addiction à Internet, qui sont en train de comparer ça et en train de montrer que le smartphone fait fonctionner exactement les mêmes zones du cerveau que la drogue, que la cocaïne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, effectivement. Alors comment ils arrivent à prouver que c'est ce qu'on appelle une addiction? Le principe d'une addiction, c'est quoi? C'est faire en permanence quelque chose en sachant très bien que ce n'est pas pour mon bien, en sachant très bien que je ne vais pas avoir d'avantage là-dedans. Je vais aller consulter mes choses, je sais très bien. On me dit, attention, il y a des problèmes sur Internet, il y a des choses, etc. Et je sais très bien que je suis en train de perdre du temps, je sais très bien que je suis en train de me déconcentrer de ma Gemara, je sais très bien que je suis en train de déconcentrer de ma Tfila, etc. Mais non, je vais continuer à le faire. Ça, c'est une addiction, c'est le fait de faire quelque chose en sachant très bien que ça fait du mal. Et les drogués, c'est ça. Les drogués, ils savent très bien, même, ou les gens qui fument. On sait très bien que c'est un problème. C'est même écrit maintenant sur le paquet. Il y a des publicités dans la rue, j'ai vu aussi en France. J'espère que ça va arriver à Bnei Brak, Bezrat Hashem. Quand les gens vivent en permanence, ils savent très bien, c'est mauvais pour moi, mais je continue parce que je ne veux pas m'arrêter. Et il y a un livre qui est sorti il y a un mois et demi, qui s'appelle Irrésistible, qui parle de ces sujets et qui compare en fait l'ensemble de la psychologie de l'addiction aux drogues, à la cigarette, etc., à l'addiction au smartphone. Donc nous, on a un problème, c'est qu'on communique, donc, comme j'ai expliqué, on communique absolument tout le temps. On communique beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait la queue au supermarché, quelqu'un qui a un smartphone, il fait la queue, il a un moment d'attente, paf, il allume. Il est comme ça. Enfin, j'étais dans l'avion pour venir ici dimanche matin, et j'avais un Israélien qui était assis à côté de moi. Je le voyais allumer son smartphone, et je le voyais, il faisait comme ça, il faisait défiler des trucs. Je lui dis, mais où il veut aller? Il fait défiler, il éteint. Après, il rallume, il fait défiler. Il éteint. Mais je ne parle pas, même pas qu'il lisait des infos, on était dans l'avion, il n'y avait pas d'accès. Mais rien que le smartphone, l'appareil en lui-même, était fait pour qu'effectivement on soit accroché comme ça. Et ce que vous ne savez pas, je vais vous dire un secret, c'est que chez Google, chez Facebook, dans toutes les sociétés de l'Internet, il y a des équipes, les grosses sociétés en tout cas, il y a des équipes de psychologues qui sont là pour analyser tout le fonctionnement du cerveau humain, pour justement faire en sorte à ce que les gens restent le plus longtemps possible sur son service. D'accord ? Il y a quelqu'un qui s'appelle, un monsieur qui s'appelle Tristan Harris, qui était à Stanford, non, qui n'était pas à Stanford, qui était chez Google, qui était le responsable de l'éthique. Et un jour, il a participé à une réunion, et la réunion, c'était, donc il y a longtemps, au tout début des smartphones, et à l'époque, il n'y avait pas de notification. Il n'y avait pas de message qu'on recevait. Le smartphone, ça permettait de consulter des informations. Et la discussion, c'était comment faire en sorte à ce que les gens prennent plus en main leur téléphone. Alors, il dit, bah, regardez ce que font BlackBerry. Ils envoient un push. Bah, les gens prennent plus leur téléphone avec leur BlackBerry. Alors, on va envoyer un message quand les gens reçoivent un mail. Il faut savoir que les premiers iPhones, etc., n'avaient pas ça. On ne recevait pas. On allait de temps en temps consulter ces messages. Ah, OK. Et il y a des gens dans la salle qui disent, mais bon, les mails, ici, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mails. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, etc. Quelqu'un a beaucoup de mails. Alors viens, on va permettre à l'ensemble des développeurs d'applications de permettre d'envoyer des notifications. À chaque fois qu'il y aura des notifications, c'est une occasion que les gens prennent le téléphone dans la main. C'est les occasions et les gens, au fur et à mesure, ils vont aller utiliser Google, ils vont aller passer du temps là et donc on va vendre plus de pubs. Il était là. Quelques semaines après, il a décidé de démissionner. Il a monté à une association qui est là pour, qui s'appelle Time Well Spent, le temps bien passé, où c'est une association de lobbying contre les sociétés de l'Internet pour leur faire passer un message en disant qu'ils doivent faire attention au temps de leur utilisateur. Bon, là, ils parlent vraiment dans le vide. Quand je vous dis que ça ne marche pas du tout, son système, parce que les entreprises de l'Internet, elles ont une vision complètement financière de la chose. Elles ont besoin de faire grossir, de faire en sorte à ce que les gens passent de plus en plus de temps. Elles n'ont pas besoin de... Voilà, c'est comme ça qu'une société grossit. Soit elle a plus de clients. Aujourd'hui, les Facebook et tout, ils ont déjà des milliards, plus d'un milliard. Donc à un moment, ça commence à être limité. Soit elle a plus de clients, soit elle étend, elle crée des nouveaux services, soit elle fait en sorte à ce que ses clients consomment plus. Bah là, en fait, la priorité de ces entreprises-là, c'est comment faire pour que mes clients consomment plus. Et donc, ce sont des laboratoires d'analyse. Et à Stanford, vous avez, qui est l'université d'où viennent les fondateurs de Google, par exemple, vous avez un laboratoire de persuasion technologique. C'est en fait là, ils analysent donc la psychologie humaine. Ils analysent aussi des études qui ont été faites sur des rats et des souris, parce que aussi on fait des études d'addiction sur des rats et des souris, et essayent de prendre l'ensemble des choses qui peuvent être les plus addictives pour attraper le plus les gens. Et ils enseignent ça aux gens qui sont en train de créer les services. Donc nous, on est arrivé en disant « Ouais, smartphone, c'est moderne, ça fait évoluer le monde, les Google, les Facebook et tout. » Bon, on sait très bien qu'ils vendent de la publicité, mais ils sont en train de nous proposer un service intéressant pour nous. D'ailleurs, ils sont en train de dire que leur but, c'est l'accès au savoir. Ça, c'est ce que dit Google, l'accès au savoir. Ce que dit Facebook, c'est « On permet aux gens de communiquer mieux. » Mais non, 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 leur objectif à eux, c'est « Comment je fais pour que tu passes plein de temps à regarder de la pub et que tu cliques dessus ?» C'est ça l'objectif initial. Après, ce qu'on dit à l'extérieur, ça c'est autre chose. Donc il y a ces choses-là. Les gens qui ont déjà vu comment fonctionne WhatsApp, quand on envoie un message, la personne sait si, enfin, vous savez si la personne l'a lu, et vice versa. Il y a une option qui permet de désactiver ça, de désactiver la fonction Action Reception. Et ce qu'ils ont fait, Ils ont dit, voilà, si vous activez cette option, vous, vous ne verrez pas si la personne a répondu. Enfin, on ne verra pas si vous, enfin, si vous, vous avez lu le message. Mais aussi, vous ne pourrez pas voir les autres. En gros, vous perdez. Donc, les gens n'activent pas cette fonction. Ils les ont bloqués. Moi, je ne veux pas qu'on, je veux pas qu'on stresse. J'ai envie de le lire quand j'ai envie de le lire. Mais par contre, moi, je veux savoir quand mon patron il a lu mon message ou quand truc, etc. Et au final, les gens n'utilisent pas. Parce qu'ils l'ont fait exprès. Pourquoi on ne donnerait pas le choix aux gens? Non, non, non. C'est, le but, c'est justement de faire tourner les gens et de les laisser au maximum. On a, il y a bon, alors ici, j'espère, Brahim, que vous n'avez pas de réseaux sociaux et de Facebook & Co. Je parle doucement, je ne sais pas. Je regarde personne pour ne pas voir les réponses. Si vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez aujourd'hui, en fait, des pages, même dans les sites d'actualité, des pages qui ne finissent pas. D'accord? Vous avez une fonction qui permet technologiquement quelque chose qui fait qu'on défile et la page ne finit pas. Ça n'existait pas avant, parce que techniquement, on ne pouvait pas le faire. Il y a un professeur à l'université de Cornell qui a fait un test. Il a invité des gens autour d'une table pour leur faire manger de la soupe. Il a pris tous les gens autour de la table et il leur a dit « Allez-y, mangez de la soupe ». Il y avait la moitié des gens qui avaient un bol spécial. C'est qu'en dessous, il y avait un tuyau. Et pendant qu'ils mangeaient, la soupe, en fait, était, on leur réintroduisait de la soupe. D'accord? On leur en mettait encore plus. Il faut savoir... On leur a dit, voilà, vous mangez jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. Il y en avait assez, de toute façon, il y en avait assez pour que tout le monde puisse se rassasier. Et sur les gens à qui on a resservi de la soupe, ils ne s'en sont même pas rendus compte, ils ont mangé 73% de plus, presque le double, sans s'en rendre compte. Les gens ont dit, mais les deux, à la fin, n'avaient plus faim. Mais comme on leur a resservi au permanence, on leur sert de l'info qui ne s'arrête pas, à un moment, le cerveau, il sait pas dire stop, et il continue, tac, 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 tac. Et donc ça pareil, donc moi je vous parle de ça, donc intéressant comme info, mais non, qu'est-ce que font les sociétés de l'internet? Elles prennent cette info en disant, bon bah alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur servir du contenu sans qu'ils s'en rendent compte. Les vidéos, quand il y en a une, paf, il y en a une autre qui va arriver toute seule. On va, avant les gens devaient aller là, et après là, et après là, non, les gens, on va leur en donner, parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir qu'il faut que ça s'arrête. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, c'est pas intéressant pour nous que ça s'arrête. On a, je saute quelques étapes, parce que justement, je ne vais pas me concentrer beaucoup sur les réseaux sociaux et vraiment me concentrer sur le sujet de connexion permanente. Il y avait à l'époque de l'arrivée du téléphone portable, en général, d'accord? Je ne parle même pas du smartphone. Rav Bosner, Zatzal, a écrit un kuntras qui s'appelle Zman Avir. D'accord? Zman Avir, le airtime, c'est le terme qu'on utilise dans le monde des télécommunications, pour parler du temps de communication. Ça s'appelle le airtime. Zman Avir. Et il est arrivé, effectivement, en disant, on a un énorme problème. Et là, ce n'était pas Internet. C'était rien que le fait d'être connecté en permanence avec son téléphone. On a un énorme problème. Et il a commencé, en fait, à défiler pas mal de sujets dont je vous ai déjà parlé, sur, effectivement, le problème de la connexion permanente, le problème de ne plus avoir un cacheur avec HM, le problème de toujours avoir, effectivement, quelqu'un à qui téléphoner et vers qui se tourner quand on a un problème, au lieu de se dire « viens, je vais essayer de me débrouiller seul, viens, je vais essayer de prier d'abord, etc. » Il a parlé de tout ça. C'était extrêmement visionnaire, parce que c'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui, effectivement, avec Internet, qui est multiplié par mille. Effectivement, donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu, entre autres, les SMS qui ne font... même les SMS n'ont pas été permis dans les téléphones cachers qui ont pu arriver, parce qu'effectivement, c'était un problème. Il y a quelque chose, il y a une société qui s'appelle McAfee. McAfee, c'est la société qui fait les antivirus, qui a aussi un laboratoire qui va analyser l'addiction des gens à la technologie. Ils ont fait une expérience, ça s'appelle le Kaspersky Labs. Non, c'est pas McAfee, c'est Kaspersky. Pardon, c'est un concurrent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étude où ils ont demandé à des gens de se concentrer sur un sujet, d'étudier un sujet qu'ils leur ont donné. Et ils ont pris un groupe de gens avec leur téléphone à côté, un groupe de gens avec leur téléphone dans leur manteau, dans un porte-manteau, dans la même salle, et un groupe de gens avec des gens qui sont dont le téléphone est à l'extérieur de la salle, et un autre dont le téléphone est éteint à l'extérieur de la table, de la salle. D'accord? Quatre groupes. Ils se sont rendus compte mais de manière franche, que les gens étaient 26% moins productifs rien qu'ils avaient un téléphone à côté. Le téléphone, il ne faisait rien. Il n'était pas allumé, enfin, il était allumé, mais en tout cas, ils n'étaient pas en train d'interagir avec. Mais rien que le fait qu'ils étaient connectés au téléphone. 26%. Et en fait, ils ont rendu compte que les non-possesseurs de smartphones à ce moment-là, ceux qui l'avaient à l'extérieur, étaient 26% plus productifs. Et au fur et à mesure, ça monte, la productivité augmente en fonction, effectivement, du téléphone qui est derrière. J'ai parlé de ce sujet-là avec un avraire avec qui j'étudie le matin. Et il me dit, c'est absolument dingue ce que tu me dis. Moi, quand je laisse mon téléphone à l'extérieur du Beth Amidrash, mais je le laisse allumé, je sais que ma matinée, j'étudierai pas bien. Je voudrais dire, mais peut-être quelqu'un m'a appelé, peut-être je devrais aller voir, etc. Je sais que j'étudierai pas bien. Par contre, si je le laisse à la maison, c'est un autre monde. C'est terminé, je suis plus là. Et ça, en fait, voilà, c'est des choses qui ont été. Lui, c'est quelque chose auquel il pensait en permanence, s'était rendu compte. Et c'est effectivement des choses qui ont été, dont les gens se sont rendus compte en permanence. Et se sont rendus compte, effectivement, avec des études scientifiques. Comme j'ai expliqué, l'important pour guérir de ça, c'est de se rendre compte que l'urgence n'existe pas. L'urgence n'existe pas. Il peut y avoir des urgences très 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 rares, d'accord, par d'entre nous. Mais il faut avoir la émouna et le bitachon de se dire, je pars le matin, je reviens le soir, tout ira bien. D'accord. Alors après, est-ce que je suis joignable au téléphone? C'est une question. À quel moment je suis joignable? C'est une question, etc. Donc, on n'est pas là en train de dire, jetez votre téléphone à la fenêtre, etc. Je ne suis pas en train de vous dire ça. L'idée, c'est de vous dire qu'on a aujourd'hui avec le smartphone le pire des outils pour arriver à se concentrer et devenir des Talmidei Chachamim. Vraiment, je pense que c'est le pire outil. Le sujet aujourd'hui, même qui fait débat à Bnei Brak, c'est qu'il y a donc des smartphones cachers qui sont sortis. Et smartphone cachers, c'est quoi? C'est pareil. On avait dit que c'était le contenu le problème, donc il n'y a pas de problème de contenu. Et je peux vous dire, je vois quelques personnes qui ont des smartphones cachés dans les bras, c'est les mêmes que les jeunes qui sont au bar à côté. Ils ne s'arrêtent pas une seconde. Pas une seconde, ils sont en permanent tac, 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 du WhatsApp, du truc. À un moment, ils me montrent, tiens, regarde le petit film que je viens de recevoir par truc. Je dis, mais voilà, en fait, on n'a pas résolu ce problème-là. On n'a pas résolu. Et c'est pour ça que maintenant, smartphone caché, beaucoup de rabbanim qui étaient pour, sans le dire, mais en tout cas n'étaient pas contre, aujourd'hui sont en train de sortir, même contre ça, pour dire, attention, non, on n'a pas résolu le sujet. On n'a pas résolu le problème. Il y a un vrai problème d'addiction. Si on voit les ancêtres du peuple juif, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David Ameler, Moshe Rabbeinu, avaient tous le même métier. Ils étaient tous bergers. Alors, qu'est-ce que le métier d'un berger ? Il n'y a pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. On est là, on se balade un peu, on amène nos bêtes à les manger, et pendant ce temps-là, on a du temps pour réfléchir. On dit David Ameler, c'était le berger de service dans sa famille. D'accord ? Donc, il est à l'extérieur, il est en train de faire perdre les mots. Et David Ameler, c'est à ce moment-là, c'est dans ces circonstances-là où il n'avait aucun ribour avec personne, il ne pouvait pas aller discuter avec ses bêtes, ça ne valait pas le coup. C'était à ce moment-là, ce sont ces gens-là qui sont effectivement devenus les hommes les plus importants de notre vie. Les gens que l'on suit, les gens qui ont créé et ont transformé le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à réfléchir. Ils ont réussi à prendre du recul. Il n'y avait pas une interruption en permanence. S'ils étaient commerçants, ils étaient marchands, ces gens-là, ils n'auraient pas pu arriver à ça. Peut-être que oui, il y a eu peut-être quelques commerçants. Je n'ai pas d'exemple, mais il doit en avoir. Des commerçants qui sont devenus des grands amis de la famille, etc. Mais non, quand on disait, non, ça me fait rappel une blague, quelqu'un disait, j'ai pas de client dans ma boutique. Il fait étudier la Torah. Alors, il a commencé à étudier la Torah et il dit, ça marche, mais je peux pas étudier. Il fait oui, parce que maintenant que le Yetzara ne veut pas que tu étudies, à chaque fois que tu ouvres un livre, il t'envoie un client. Donc, bon, ça c'est un autre truc. Mais en tout cas, voilà, il y avait des métiers, entre guillemets, la vie de nos avot étaient des vies solitaires, étaient des vies où on arrivait effectivement à se retrouver avec soi-même. Et ça, effectivement, pour moi, c'est effectivement une preuve encore que c'est comme ça qu'on doit être. Puisqu'on a effectivement sous avot simon avanim, donc on doit effectivement aller dans le même sens. On a un Rambam dans Ilchot Deot Perek Bet, l'olam. Yarbe Adam Beshtika, Veloidaber Ela, Obedavar Chochma, Obedvarim, Shetzarech Laem, Lechei Gufo. אמרו על רב תמיד רבנו הקדוש שלא סך שיחה בטלה כל ימיו וזוהי שיחת כל אדם. Donc, je traduis.
Je dois traduire, oui.
Pour toujours, on doit, l'homme doit doit yarber, faire un surplus de silence et ne doit parler uniquement des paroles de sagesse et des paroles dont on a besoin pour sa vie personnelle. D'accord? S'il va aller acheter du pain, il peut dire quel pain il veut. D'accord? On dit que Rabbeinu Akadosh, qu'il n'a jamais fait une sikha betera kol yamav. Et il dit que c'est en général les sikha de kol adam. Pour moi, ce Rambam, c'est en fait quasiment, il est en train de parler à ce qu'on est aujourd'hui, où on est en permanence à s'envoyer des messages pour rien. C'est bon, t'es bien arrivé, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Sikha betera. Alors on peut dire effectivement, de temps en temps, il peut avoir une toilette, évidemment. D'accord, on ne se dit pas qu'on doit parler, pas parler tout le temps. Même si quand même, le Rambam, il a quand même ramené... Rabbeinu Akadosh, il parlait pas du tout. Donc c'est ça l'idéal. Bon, on peut se dire. Mais là, nous, on est au contraire. On est là, pac, 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 on s'envoie des messages, on s'envoie des trucs, on se raconte des choses. Ah, t'as vu ça, et t'as vu ci, et t'as vu ça. Voilà, Rambam, texto, effectivement, nous dit qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'on doit progresser. Les Abdil, Hitler, Marchemo, a écrit Mein Kampf, il a écrit en prison. Il a écrit quand il s'est retrouvé seul. D'accord ? Il n'a pas écrit quand il était dans le feu de l'action. Il a écrit quand il s'est retrouvé seul, il n'avait rien à faire. Il a écrit l'œuvre la plus démoniaque et la plus marquante des 100 dernières années. Donc on peut aussi, en se retrouvant seul, on peut aussi aller dans le mauvais sens, mais ça c'est un autre problème. Le Ramchal dit dans Messiah Tsecharim, Perek Bet, il dit « Aoler beolam oblid bonenut im tova darko ora » Inéu que suma oler al sevat anahar, achar sakanato vadai atsuma veraato krova miatsalato. Celui qui se promène dans le monde sans introspection, pour savoir si son derrière, sa manière de vivre est bonne ou mauvaise, est comme un aveugle qui se balade au bord d'un fleuve dont le danger est assuré et son mal plus proche que son sauvetage. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit être en permanence dans notre vie, avant de parler, avant de marcher, avant de prendre la moindre décision, on doit être en permanence en train de réfléchir. Ça va, je vais choisir le bien, je ne vais pas choisir le bien. Vous connaissez sans doute dans Maseret Nida, quand on demande à l'homme, le malach qui s'appelle Laila, qui demande à Kadosh Baruch Hu avant la naissance, est-ce que cette tipa va être Ashir ou Ani, riche ou pauvre, Chacham ou Tipesh, Gibor ou Chalash, riche ou pauvre, faible ou fort, et sage ou intelligent ou bête. Et la Torah là-bas nous dit effectivement et on demande mais pourquoi on ne demande pas Ashir ou Ani, Sadik ou Racha, pardon, on ne demande pas pourquoi Sadik ou Racha. Et la Torah et la Gemara répond Akol Kederabi Chanina Marabi Chanina Akol Bide Shamaim Chutz Mirat Shamaim. Tout est Bide Shamaim Chutz Mirat Shamaim. Finalement, tout ce qui va nous arriver dans la vie, c'est décidé. La seule chose qu'on doit décider, nous, c'est de faire le bien ou de faire le mal. De choisir le Derech HaTorah, de réfléchir en ayant Akadosh Baruch Hu en tête et en ayant ses lois en tête, ou de passer de l'autre côté. Ça, pour moi, on ne peut pas le faire aujourd'hui en étant connecté comme on peut être connecté. On ne peut plus. On ne peut plus, en fait, avoir la moindre connexion permanente et le moindre Shiviti Hashem Nekzutamid si on est connecté en permanence. C'est pas possible. Je vais passer quelques sujets. Un jour, j'avais une question que je voulais poser à Rav Steinman. Et dès que j'ai eu la question, j'ai appelé Rav Dreyfus, avec qui je vais en général chez Rav Steinman. Je dis, voilà, j'ai une question. Je vais poser la question à Rav Steinman. Il m'a dit, vous avez écrit la question ? Alors, j'ai dit, non, mais je la connais. La question est facile, voilà, c'est ça, ça, ça. Il me dit, vous avez écrit la question ? Je dis, pourquoi vous voulez que je l'écrive ? Il me dit, parce que au moins, peut-être pendant le temps que vous l'aurez écrit, peut-être que vous aurez déjà résolu le problème. Très, très vite, en fait, pareil, c'est qu'en fait, le fait d'avoir accès en permanence à tout, c'est que finalement, on n'essaye pas de résoudre nos propres problèmes. C'est un problème qui est un problème par rapport à notre limoud, d'accord ? Enfin, maintenant, on a le. Moi, j'ai un problème. J'ai étudié pendant des années sur des Marot Art Scroll, Schottenstein. C'est magnifique, c'est super. Mais finalement, je me suis rendu compte à un moment, quand j'ai arrêté de les utiliser, que ça faisait tout le travail. Il n'y avait plus de réflexion, il n'y avait rien. C'était du fast-food. On est en permanence, finalement, avec tout à notre disposition beaucoup trop facilement. Et finalement, on n'essaie pas de se casser la tête. On n'essaie pas, nous, de résoudre nos problèmes. Et finalement, nous, on est là pourquoi sur Terre? On est là pour vivre et dans le monde, le modèle métro-boulot-dodo, comme disent les Français, c'est-à-dire on est là pour vivre, effectivement, passer du temps. Bah là, notre limite, c'est quoi? Ah bah tiens, je vais faire mes heures. Non, on est là pour se casser la tête. On est là pour réfléchir, on est là pour s'améliorer, on est là pour en permanence essayer d'avoir un échouvadat sur l'ensemble des choses. La meilleure bracha que quelqu'un peut recevoir, quand les gens me demandent, dis, voilà, imaginons tu es une bracha à demander à Kadosh Baruch Hu, laquelle tu demandes? Moi, je dis « Menuchat Nefesh ». C'est la meilleure. C'est-à-dire avoir l'esprit assez calme pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir étudier, pour pouvoir… Je ne demande pas d'être racham. Pourquoi je vais être racham comme ça? Ça va devenir et hop, je vais devenir racham. Non, je demande d'avoir le Shuadat et Menuchat Nefesh pour pouvoir effectivement arriver à me concentrer. Et justement, comme il expliquait, c'est effectivement avec tous ces sujets d'Internet, c'est… On est tombé sur aujourd'hui dans un monde où on est exactement en train d'aller dans le monde opposé. Et ce que je suis en train de vous dire, comme je vous ai expliqué, les non-juifs sont conscients. Il y avait des articles qui sont sortis il y a quelques jours en expliquant par des médecins qui sont en train de montrer à quel point les enfants ont des attitudes qui ressemblent à l'autisme maintenant parce qu'on leur donne des téléphones dans la main ou des tablettes à la place de leur tétine pour les calmer. En disant, bah, c'est pas grave, pendant ce temps-là, ils vont aller bien. Ils disent, voilà, les médecins sont en train de les regarder, les analyser. Ils disent, ils fonctionnent exactement comme les autistes. On ne peut pas leur parler, on ne sait pas où ils sont, etc., etc. Après, je ne parle pas du problème de Shalom Bayit. J'arrive à la maison, bon, je passais mon temps avec ma famille. D'accord? Bon, certains avaient la télévision. Bon, Baruch HaShem, on n'a plus ça. J'espère aussi. En tout cas, si on arrive avec un téléphone, je dis à mes enfants, les enfants me parlent, je dis, mais attends 2 secondes, j'ai un truc urgent à faire. Ça m'était arrivé, j'avais un Blackberry à une époque, c'est rare, c'était, non, attends, j'ai un truc urgent. Avant, je te refais le recul comme ça, en train de dire, c'est urgent ce que je suis en train de faire. J'ai une personne proche de ma famille et l'assistante de Rav Dreyfus. Et elle a un smartphone, d'accord? Et un jour, elle est venue chez moi et elle était en train de répondre à des messages au milieu du sujet. Elle me dit, non, c'est important, c'est pour Rav Dreyfus. Alors je dis, mais Rav Dreyfus, lui, il arrive à se déconnecter quasiment toute la journée. Et voilà, il n'y a pas mort d'homme, il se passe rien. J'ai appelé Rav Dreyfus au téléphone, je lui ai dit, regardez, les sujets là qu'il y avait, ils y sont urgents, mais dit, ils sont importants, mais absolument pas urgents. C'est-à-dire qu'on pouvait les faire le lendemain, on pouvait les faire 2 jours après, aucun problème. Il m'a dit qu'en fait, le problème, finalement, c'est de mélanger l'important à l'urgent. Si c'est important, ça ne veut pas dire que c'est urgent. D'ailleurs, qu'en fait, il y a une méthode pour gérer son emploi du temps et gérer ses priorités dans la vie. On fait une croix. Bon, moi, je l'ai vite fait, je fais des petits points, je ne sais pas comment chacun fera. Il y a 4 zones. Et en fait, on met en haut à droite ce qui s'appelle important et urgent. En dessous, pas important et urgent. Pas important, ça veut dire qu'on pourrait s'en passer. Même si ça passe, ce n'est pas très grave. Mais quand même, il faut le faire maintenant ou jamais. Et de l'autre côté, voilà, bon, vous imaginez, il y a deux critères et vous avez un case. Et en général, on part comme ça, en Z, et on fait les différentes choses. Moi, c'est comme ça. Vous savez, j'ai un petit carnet dans la poche, donc c'est pas un smartphone, un petit carnet papier où j'ai mon petit truc avec mes différentes zones, des choses que j'ai à faire. Donc, c'est ça, en fait, le sujet. C'est de pas, en fait, mélanger ces deux sujets-là. L'autre problème, c'est le kécher qu'on peut avoir avec le monde. Ilchot Deot aussi, pareil, Perek Vav, on dit Deot, Briato chez la dame, Liot, Nimshach, Vedeot, Vedeotav. Voilà, il m'a enlevé tous les espaces, super. Informatique. Oh, je vais vous le dire. Donc le derrière de l'homme, c'est d'être Nimshach par son entourage. D'accord? On est attiré et on ressemble à son entourage. Alors à l'époque où le Rambam expliquait ça, c'était quoi? C'était sa Keïla, son voisin. D'accord? aujourd'hui, en fait, on crée, il existe les gens qui ont des groupes sur WhatsApp. Ils ont des groupes. Et donc, maintenant, son entourage, je sais plus, sa famille, ses amis, son rave, etc., c'est devenu gigantesque. C'est devenu énorme. Plein de gens. Et nous, en fait, le Rambam, il dit, effectivement, il faut en permanence être, vraiment, le texte est complètement loupé, il faut en permanence être entouré de tzadikim et éviter la proximité avec les rechaim. Et si tu te trouves dans une ville où il n'y a pas de tzadikim, bah tu vas vivre seul. Tu vis seul parce que l'entourage fait qu'effectivement on est poussé vers le bien ou vers le mal. Donc là justement pareil, le problème d'internet est de fait de maintenant d'avoir élargi notre entourage. Fait que finalement on a beaucoup plus de monde. Malheureusement, très très souvent, beaucoup de gens qui perdent leur temps là-dessus, donc aussi qui sont dans la même ambiance. Et malheureusement, ça tire pas vers le haut. Ça tire pas vers le haut. Et donc, de la même manière, alors je parle pas effectivement, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les Facebook et co, là on n'en parle même plus. L'entourage, c'est le monde entier, les goïms, les peuples d'Afrique, et les trucs, ça y est, c'est ça l'entourage. Donc nous, le Rambam dit, fais attention, mets-toi à côté des tzadikim et pas des rechaim. Non, là on a tout le monde. Et on devient comme tout le monde. Les gens, moi je suis en train d'étudier une sugya, qui est le sujet de Lashon Hara sur Internet. D'accord ? Étudier en yun ce sujet-là. C'est aujourd'hui les gens qui vont sur Internet et qui vont aller dire, non mais ce monsieur-là est quelqu'un de pas bien, ou alors vont aller dire, ce restaurant-là est pas bien, ou alors si, etc., à quel point, effectivement, ils rentrent dans les problèmes de Lashon Hara. Et les problèmes de Lashon Hara dans lesquels ils rentrent, c'est Lashon Hara Berabim, Lashon Hara Berabim, donc, qui amplifie le Issour, Lashon Hara Lifne Goïm, parce qu'en général, vous avez des Goïm qui lisent, donc il y a un problème de Chilou Lachem, je crois qu'il n'est pas sous la Edout, etc., etc. Bah, de toute façon, bah, Lashon Hara n'est pas sous la Edout. Mais, en tout cas, on se rend compte que, finalement, on est rentré dans un modèle où le fait de parler de sujet et de critiquer un sujet, on est en train d'enfreindre les plus grands issurim Lashon Hara qui existent. Et on ne s'en rend pas compte aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte puisque de toute façon, on passe notre vie à lire des journaux et à voir, à entendre l'environnement qui va dire « Fillon, c'est un sale type, Macron, c'est un truc, etc. » Il y a un midrash qui dit que malgré le fait que le issur de Raita de Lashon Hara soit destiné uniquement au goyim, il y a un midrash qui dit qu'il ne faut pas du tout faire de la Lashon Hara sur les juifs. Il ne faut pas du tout faire de la Lashon Hara sur les goyim parce que ça va être mégalgel qu'au final, à la fin, tu vas arriver à parler de la Lashon Hara des juifs. On le voit aujourd'hui. Les gens ont commencé à dire Hitler au secours. Après, c'est l'homme politique. Après, c'est Donald Trump. Après, c'est Macron. Et après, c'est mon voisin. Et après, c'est ma chavruta. Pourquoi ? Parce qu'on prend l'habitude. Et le Midrash, il est là pour ça. Et donc, en fait, moi, j'ai cherché, effectivement, et tous les psakim, etc., qui arrivent, les gens disent, on ne fait pas de Lashon Hara, même sur les goyim, parce qu'on arrive à ça. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant qu'on nous donne la parole sur Internet, et on a des gens qui nous écoutent, on est là à le faire tout le temps. Donc, pareil, ça, c'est encore un des gros problèmes du sujet. Il y a un problème aussi quand on travaille, qui est le problème de Gezel vis-à-vis de son employeur. Vous savez que dans Rochel Mishpah, on parle de celui qui va se réveiller, va se coucher trop tard, va se coucher tard la veille de son emploi. Et en fait, on dit à ce moment-là qu'il fait du gazelle vis-à-vis de son employeur. Parce que le lendemain, il va arriver au travail, il va être fatigué, il va faire moins bien son travail. Mais il est arrivé à l'heure, il a fini à l'heure. Bon, c'est pas grave s'il est un peu fatigué. Non. L'employeur, quand il t'a recruté toi en forme. Il voulait que tu sois en forme. S'il savait que tu allais arriver fatigué, il ne te recrute pas. Donc si maintenant tu es fatigué, c'est du gazelle. La même manière, les gens aujourd'hui vont aller consulter leur téléphone au travail. Ils vont aller parler avec leur femme, vont aller parler avec n'importe qui, l'entourage. Des fois, non, j'ai posé une chélote à mon rave. Au travail. On arrive, on rentre en permanence dans les sujets de gazelle. Dans le code de la loi du travail qui est sorti en France au 1er janvier dernier, ce 1er janvier, il y a maintenant une règle qui va obliger les entreprises à définir des règles d'utilisation des téléphones dans les entreprises. C'est super, c'est super pour nous parce que nous, de toute façon, juifs, on était en train d'enfreindre, et de toute façon même les goyim, étaient en train d'enfreindre un problème de Gezel en permanence. Quand je parle ça aux gens qui sont en entreprise, ils disent « Oh, ça va de temps en temps. » Je fais combien de fois de temps en temps ? 5-6 fois par heure. Je fais, ça fait beaucoup quand même. Puisqu'on dit qu'en fait, il faut en général, quand on se déconcentre d'un sujet, il faut 10 minutes pour se remettre. Donc 5-6 fois par heure, c'est le temps que tu te reconcentres sur ton sujet, t'es déjà reparti. Et donc là, on rentre dans un problème de Gezel réel. Donc moi, je vous dis à quel point, Baruch HaShem, on a les femmes et les hommes de Bnei Brak qui ont pris conscience de ça, à quel point ils sont makpidim d'avoir leur téléphone éteint au travail, de faire leurs heures. Moi, j'entends des histoires magnifiques en permanence de femmes qui charédites, ils sont quelques femmes charédites dans une société réunite, qui sont mises en avant en disant « Regardez à quel point elles sont productives. Elles partent plus tôt que vous, elles arrivent plus tôt que vous, mais elles font plus de travail que vous parce qu'elles ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux et elles perdent de temps. » Donc, il y a un vrai problème et ça, c'est un problème d'arrêt, c'est un problème de gazelle. Malgré les filtres et tout ce qui peut exister, pour ceux qui veulent rester, c'est pas 100% parfait, ce qu'on a déjà testé. Donc moi, en fait, ce que je dis, c'est que tous les gens qui n'ont pas goûté à Internet, n'y goûtent jamais. Si vous pouvez passer toute votre vie sans, vous serez les gagnants. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, regarde, tu peux travailler par mail, etc. Ok, moi j'ai un statut particulier. À un moment, je me suis rendu là-dedans, j'essaye moi de m'en défaire au maximum. J'ai annulé un contrat il y a un mois, parce que c'était un contrat où je devais trop passer d'échanges, je devais trop passer de temps sur Internet. Faire des recherches, faire des trucs, etc. Voilà, bah, c'est pas grave, ça m'embêtait. Mais effectivement, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose, finalement, pour le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des sites de rabbanim qui sont tellement superbes, faits même par des rabbanim de Bnei Brak, etc., qui sont tellement superbes sur Internet, que les gens, en fait, ont tendance à dire « Allez, je me connecte uniquement pour Kol HaLashon, uniquement pour si. » Il y a une caricature qui est sortie sur les murs de Bnei Brak. C'est comme ça, c'est un enfant qui dit « Papa, tu peux me prêter ton smartphone, c'est juste pour Kol HaLashon. » Donc on voit un bon petit enfant sorti du cheder avec ses péotes et son chapeau. Et on voit un mois plus tard, le petit, bon c'est un peu exagéré sur la durée, mais le petit avec les boucles d'oreilles, avec les cheveux pleins de couleurs. Alors, on a commencé avec ça, on a commencé avec Kol HaLashon, on a commencé à des trucs, après on est passé à YouTube, on est passé à ci, on est passé à ça, on est passé à la petite blague, et on est passé à des bêtises. Et je le vois aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui ont des smartphones cachers aujourd'hui à Bnei Brak ont le même problème. Ils continuent, ils regardent aussi des trucs qui servent à rien, absolument rien. Et le dernier point, donc j'ai parlé un petit peu, il y a les deux derniers points, donc j'ai parlé un petit peu du sujet de Shalom Bayit. Le fait d'être présent, finalement, quand on écoute les cours de Shalom Bayit, on peut les résumer. On peut les résumer. Il n'y a pas de femme ici, donc on parle qu'entre hommes. Essayer d'avoir un bon Shalom Bayit avec sa femme, c'est écouter sa femme. Il faut l'écouter au maximum, écouter ses problèmes, etc. Être mitiaches à ses problèmes. Pas obligatoirement les résoudre. Il y a plein de rabbins qui disent « Attends, fais attention, n'essaie pas de résoudre le problème. » Juste, tu dis, j'ai compris, ah mince, c'est vrai, mince. Ou alors quand elle te montre un nouvel vêtement qu'elle a acheté, c'est magnifique. C'est tout, c'est ça, c'est 80%. Je vous résume, moi j'aime bien résumer les choses. Alors, mon premier métier quand j'étais journaliste, c'était de résumer des grands articles, on faisait des brèves. Donc ça m'a pas mal aidé. En gros, j'ai résumé, c'est ça, c'est écouter sa femme. Si on arrive à la maison et qu'on est en permanence pas à l'écoute, vis-à-vis de ses enfants, j'ai la femme, mais les enfants, c'est exactement la même chose. Moi, mes enfants, il y a des fois, arrivent avec un problème gigantesque. Moi, je suis déjà en train de réfléchir comment je vais le résoudre. Comment je vais le résoudre? Ah ouais, alors ouais, peut-être je devrais parler au directeur et tout. Je parle, je dis, oh là là, ils arrivent tristes et tout, on pleure et tout, voilà ce qu'elle m'a fait ma copine et ça, et la morale en plus, elle m'a pas écouté, nanana. Moi, je fais, ah ouais, ah oui, ah oui. Et à la fin, elle repart en courant, avec le sourire. Je dis, mais attends, on n'a rien réglé. Non, mais c'est bon, je me suis déchargé, il y a quelqu'un qui m'a écouté. Et ça, c'est effectivement, il faut être là. On a besoin d'être là. Et ça, le seul moyen d'être là, c'est de ne pas avoir à être avec quelqu'un d'autre. Le dernier point, c'est que par rapport à l'amitié et par rapport aux gens qu'on a autour de soi. Aujourd'hui, avec Internet, au début on disait grâce à Internet, les gens ont beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'amis, beaucoup plus d'entourage. Beaucoup, beaucoup plus. On connaît plein de gens, on se connecte avec plein de gens, etc. Au final, on se rend compte, finalement, que plus on en a, moi, on en a. Finalement, avant, moi, j'avais 2-3 amis qui étaient mes meilleurs amis, mais on était tout le temps ensemble, on avançait ensemble, etc. Mais maintenant, comme on a tous 1000 amis, Je parle pas amis sur les réseaux sociaux, d'accord? Je parle de contacts, etc. Hein. Comment on en a mille? Bah, les vrais amis, on les a oubliés. Un jour, j'ai eu un ami qui était un très très bon ami, qui m'envoie un message en disant, bon, Jérémy, c'était au tout début de Facebook, c'était je crois en 2008, 2009, quelque chose comme ça, et sur lequel j'étais moi jusqu'en 2012. Et là, un ami un jour qui m'envoie un message et qui me dit, bon, Jérémy, il n'y a plus d'intérêt à être ami, donc nous ne sommes plus. Vous rigolez, mais vous imaginez le choc. Le choc. J'ai demandé, on avait un ami commun, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, non, il a rien à te reprocher. Mais il a décidé que non, tu fais plus, il raye la liste. On était les très bons amis. Il est revenu il y a un an et demi en disant, qu'est-ce que j'étais immature, qu'est-ce que j'étais bête. Et maintenant, voilà, on a repris contact. Moi, j'ai fait semblant de rien. J'ai fait pas l'oticom, l'autitor. On doit faire attention à ne pas lui dire dégage. Voilà, il avait un problème, c'est qu'effectivement, on avait tellement de gens autour de nous, on ne s'est pas rendu compte que ce sont les gens les plus proches, notre avruta, notre femme, nos enfants, etc., qui sont les gens les plus importants. Donc voilà, donc comme l'expliquait, notre seul but dans notre vie, c'est de faire des bons choix. C'est la seule chose qu'HM nous demande. Donc je vous souhaite à tous de faire les meilleurs choix et j'espère vous avoir donné des petits indices. Merci. Merci. Merci.